Parole Rurale, une émission de reportage à la rencontre des paysans du Sud Aveyron, ou l'agriculture racontée par ceux qui la font. Rendez-vous aujourd'hui avec Victor, qui élève des brebis lacones à Boussac, sur le causse des Costes-Gozon, pour une discussion à bâton rompu.
Bonjour, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ?
Ok, ben moi c'est Victor Vernet, je suis agriculteur sur la commune de Sainte-Afrique, au lieu dit Boussac.
Qu'est-ce que tu produis ?
J'ai des brebis laitières, je produis du lait pour Société des Caves. J'ai 350 brebis à la traite à peu près, et on travaille sur une ferme située à Boussac pour la plus grosse partie, et j'ai aussi une ferme à Saint-Victor. D'accord. Sur la commune de Saint-Victor, à quelques hectares là-bas, hérité du côté de ma mère.
Voilà. Et combien d'hectares au total ?
Donc au total, une SAU d'à peu près 150 hectares, plus après quelques bois et quelques parcours.
D'accord. Mais c'est en plusieurs lots, en plusieurs parties ?
Ouais, donc le plus gros est ici sur Boussac. Et donc du coup, on n'a pas d'élevage sur Saint-Victor. Là-bas, c'est... production de fourrage et céréales.
Et alors, comment t'es arrivé dans l'agriculture, toi ? Est-ce que t'es né dedans, ou est-ce que c'est une démarche que tu as faite de longue haleine ?
Voilà, donc moi je suis né sur la ferme, père agriculteur, ma mère institutrice. Mon père travaillait avec ses parents, donc ils ont toujours travaillé à trois, quoi. Et mes grands-parents vieillissant, moi, étant adolescent, j'ai aidé mon père autant que je pouvais, puis ça me plaisait, les vacances scolaires, puis les week-ends. Enfin, dès que j'avais un moment, j'étais là, quoi. C'était quelque chose qui m'a toujours plu, quoi. Conduire les tracteurs, m'occuper des brebis. Bon, quand on est jeune, on est plus intéressé par les tracteurs que par les brebis. Enfin, moi, c'était mon cas. Mais de fil en aiguille, la passion pour les brebis... est venu, quoi.
Elle est venue.
Voilà.
Donc quelque part, la brebis, c'était d'entrée, c'était plus ou moins sûr que tu allais faire ça.
Bah disons que...
Vu que c'était l'héritage aussi.
Voilà, on est dans un secteur où on est dans le cœur du rayon Roquefort. La brebis laitière, c'est une production qui a été, on va dire, un peu épargnée par des crises. C'est une production qui a toujours plutôt bien marché. Donc, c'est adapté au contexte pédoclimatique aussi, on va dire. La lacone, elle est bien adaptée pour notre pays. On la fait pâturer, elle va bien pour le coin. Donc, après...
Tu savais que tu allais vendre, de toute façon. Enfin, en faisant de la brebis laitière, tu connais déjà le...
Il y avait le débouché qui était là. Il y a des quotas. Bon, maintenant, on ne parle plus de quotas. Mais bon, je veux dire, il y avait tout pour faire de la brebis laitière. Donc, bon, je ne me suis pas posé la question... de faire autre chose, puis bon, moi j'ai en tant que salarié, j'ai connu d'autres productions, quoi. Et c'est bien aussi d'aller voir ailleurs, parce que des fois on se dit, oh, les brebis, c'est chiant, machin, ou je sais pas quoi, et puis on va faire des vaches, et puis tu te dis, oh, finalement,
c'est pas si mal
les brebis. j'ai trait des vaches en Normandie, dans l'humidité, dans la gadoue normande, Je me suis dit, oh, finalement, bon, on n'est pas trop mal à traire des brebis, c'est pas si pénible.
De Sainte-Afrique, c'est pas plus mal.
Voilà. Donc,
Et t'as passé une certification, un diplôme, j'imagine que tu t'es formé, c'est obligatoire.
Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait d'abord un bac général. Et puis, quand j'étais plus jeune, je savais pas trop si j'allais reprendre la ferme, tout ça. Puis bah, après le bac, j'ai quand même décidé de me former à faire un BTS agricole. Là, je commençais quand même à penser à m'installer, mais je m'étais dit, bon, après, j'étais pas fermé à faire autre chose. J'ai fait un BTS en gestion, comptabilité, tout ça. Donc, je m'étais dit, au moins, même si je fais autre chose, si un jour je veux reprendre, ça me servira toujours. Et puis, donc, j'ai travaillé un peu à droite, à gauche, mais pas très longtemps au final, quelques années. Et puis, en 2018, je me suis installé.
En 2018.
Voilà.
T'as repris la place de ton père ou...
Non, je me suis associé avec lui.
D'accord.
Voilà, il était tout seul. Il était tout seul sur la ferme au moment de mon installation. J'ai été salarié avec lui donc pendant une période de transition quoi. On a commencé à travailler ensemble, j'étais salarié. Et puis le temps de faire tout l'administratif qu'il faut pour s'installer quoi.
Ouais. Et j'aime bien poser cette question à ceux qui occupent élèvent des bêtes. Quel est ton rapport avec tes animaux? Avec tes brebis, tu les connais toutes, elles ont toutes un prénom.
Non. On arrive sur des. Quand tu commences à avoir plus de 300 bestioles, tu veux pas. Non. Après, on les connaît d'une autre manière, quoi. Je veux dire que quand on est en période de traite, on les voit passer tous les jours, matin et soir devant nous. Donc, on les connaît quand même. Hein, et puis, on est ouvert aussi à. On est vachement dans l'observation, quoi. Au moment où on leur donne à manger, tout ça, on voit les réactions.
Si le troupeau va bien.
Voilà, ouais, c'est plus. Un rapport comme ça qu'il y a. Et après une période qui est intéressante avec les animaux, c'est la période du pâturage parce que c'est là qu'on les voit sortir, elles sont contentes d'aller dehors.
Quand... Ça, tout au début, non?
Ouais, sur les premiers jours, mais même tout le temps. Hein, le moment où. Puis elles le savent, après elles sont réglées, quoi. Mmh. À l'heure où elles savent qu'elles vont sortir, quand on ouvre les portails, on voit bien que les yeux pétillent. Et voilà, quoi. Donc, c'est vrai que c'est. C'est une période qui est sympa, quoi. Après, moi, ce que j'ai changé par rapport à ça, hein, m'installant, c'est que je me suis vachement intéressé au pâturage dynamique. Hein. C'est une manière d'optimiser le pâturage, on va dire.
D'accord.
Donc, l'an dernier, là, je me suis équipé avec un système sur le quad où je fais avancer mes brebis au fil électrique tous les jours dans la parcelle et je leur donne vraiment ce qu'il y a de vraiment nécessaire à... pour qu'elle mange quotidiennement. Quoi.
D'accord. Pour être sûr que le champ est voilà, totalement exploité.
Parce que,
quoi.
Mettons une parcelle où l'herbe est verte, l'herbe est haute, si on les met en deux jours, si on les met dans une parcelle, elles peuvent avoir tout piétiné, ouais. Parce que le plaisir de gambader. et finalement, on n'optimise pas trop l'herbe, quoi, en d'accord. faisant comme ça. Mmh. Donc moi, je me suis un peu lancé là-dedans. Puis il y a un aspect aussi... il y a un aspect économique, parce qu'on... On gère mieux la pousse de l'herbe, mais il y a un aspect aussi écologique parce qu'on fait du pâturage intensif à un moment donné sur une parcelle et on optimise bien toute la plante et aussi le fait que les brebis soient concentrées à un endroit, donc tout ça, avec les crottes, tout ça, ouais, donc ça vraiment ça crée une dynamique une dynamique écologique, quoi, une
d'accord.
dynamique.
C'est quelque chose qu'on t'a appris à l'école, ça, ou que t'as découvert?
Non, c'est des choses que j'ai découvert par moi-même après.
D'accord. Ouais. Ah oui, mais on n'a jamais fini de se former.
Oh non, mais de toute façon, on n'aura jamais, même à la fin d'une vie, on n'aura jamais fini. Il y a toujours des innovations. Et puis, on est quand même. L'agriculture arrive dans une période où il faut vachement se remettre en question. Mmh. D'un point de vue de la durabilité de nos systèmes, quoi.
Mmh. Mmh. Oui, parce que.
Faut pas voir à un an, deux ans ou dix ans, quoi. Il faut voir à plus long terme. Mmh. Et voilà, être prêt à se remettre en question, à changer de technique, à changer de tout, quoi.
Ouais. Oui, parce qu'il y a un problème des sols, quand même, qui commence à s'appauvrir à certains endroits, je crois. Ça.
Ouais, bon, mais après, il y a ça, il y a surtout le changement climatique, quoi.
Ouais. Ah. On arrive, tu le vois, toi, le changement climatique?
Bah, bien sûr, on arrive sur... Enfin, on a de plus en plus des étés très secs. Bon, les gens qui ont plus de recul que moi sur l'agriculture, sur aussi le secteur, quoi... Ils disent bien qu'avant, on arrivait à avoir des pluies, des fois, en plein été, quoi. Là, on est de plus en plus sec, des automnes et des printemps très pluvieux, des fois. Des périodes très sèches, suivies des périodes très pluvieuses. Donc, on voit bien que le climat se dérègle, quoi. Ouais. C'est un fait, quoi.
Ouais, ça, c'est un fait, ouais, c'est sûr. Donc, ça fait 3 ans que tu es agriculteur à ton nom, si je puis dire. Est-ce que tu en vis bien? Est-ce que tu gagnes bien ta vie? Est-ce que tu as du temps pour toi?
Alors, est-ce que je gagne bien ma vie? Moi, je considère que oui. Mmh. Est-ce que j'ai du temps assez?
Tu considères que non, peut-être?
Ouais, il y a des périodes où c'est difficile, clairement. Il y a des périodes où il y a tout qui s'accumule. Donc,
l'agnellage et tout ça.
La traite, donc, nous, on commence par... Nous, on a un système tardif, ouais. Donc je mets bas tard. C'est-à-dire, moi, je mets bas en février.
D'accord.
Donc on a l'agnellage en février, là, ça va pas tarder. Après, tout s'enchaîne, quoi. Donc la traite, matin et soir. Après, la période où on commence à sortir les brebis, là, courant mars. Après, il faut faire les foins. Après les foins, on enchaîne sur les moissons. Donc c'est vrai que de février à juillet, quand on est fini de moissonner, on court partout.
Ouais.
Et on est débordé. Et après, il y a la période automnale où finalement, quand on a mis notre fumier, qu'on a fait nos semis, tout ça, on a du temps libre, quoi.
D'accord.
Ça qui est difficile à gérer, quoi. Des périodes où il y a beaucoup de travail et d'autres où il y en a beaucoup moins. Et du coup, voilà. Bah après, bon, moi, j'ai des pistes pour essayer d'améliorer ça, quoi. Peut-être essayer de m'associer avec une personne en plus sur la ferme, parce que j'estime qu'on pourrait être un de plus. Économiquement, ce serait viable pour une personne de plus. Après, pourquoi pas aussi faire de plus appel à de la main d'œuvre extérieure, quoi. On y réfléchit, quoi.
D'accord.
Il y a déjà des choses qui ont été faites.
Ça se calcule, tout
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Quand j'ai commencé, on faisait l'annilage K2 avec mon père. On sortait de là, on était quand même un peu asséchés. Donc là, depuis l'année dernière, on a pris de la main d'œuvre en plus. Et...
D'accord.
Déjà, ça soulage, et puis voilà. Ouais.
Ça se trouve facilement dans la main d'œuvre ?
Non.
Ah,
non.
Non, tu lances un appel ?
Ah, bah, bon, pour cette année, c'est bon, mais. Non, c'est vrai que l'annilage, c'est quelque chose de difficile, hein, surtout avoir l'expérience, quoi, pour savoir observer, savoir quel geste au bon moment. Donc, je trouve qu'il y a une dynamique, il y a des gens qui se lancent un peu là-dedans, qui ne sont pas du milieu. Souvent, c'est des gens qui sont, je trouve, qui sont pas du milieu et qui s'intéressent à ça et qui finalement, quand t'as fait 2, 3, 4, 5 annielages, ben, tu commences à être performant quoi, et à être bon. Et c'est vrai que c'est dur à trouver des gens comme ça. Et les quelques personnes, là, en tout cas, autour de Saint-Afrique qui font ça, ben, ils savent pas où se tourner parce qu'il y a du boulot.
Ouais, mais toi, on était un peu tardif par rapport aux autres.
Ben ouais, mais je suis pas le seul à être tardif. Ah,
D'habitude, l'annielage, c'est plutôt novembre, non ?
Bah, historiquement, il y avait des annielages plus ouais, à l'automne parce que sur le système de production du Roquefort, ils attaquaient à produire du lait entre octobre, novembre, par là, et jusqu'en juillet. Mais bon, maintenant, ils veulent du lait toute l'année, quoi.
D'accord.
Parce qu'il n'y a pas que le Roquefort qui est produit.
Ouais.
Donc, pour avoir du lait toute l'année, ils ont incité des gens à produire à d'autres périodes, quoi.
D'accord.
Donc maintenant, il y a des gens qui ont des annielages toute l'année, quoi. Il y en a autant, c'est l'été, d'autres, c'est l'hiver.
Donc, voilà. T'es pas une exception, donc.
Non, il y a ouais, autour de nous, là, il y a j'en connais d'autres qui mettent bas en même temps que nous, à peu près, quoi. Ça a des avantages aussi, on fait la plupart de notre lait au pâturage, quoi. On a besoin de moins de stock, finalement. L'hiver, on a nos brebis, bon, quand on commence... J'essaye de sortir jusqu'en décembre, jusqu'à que le temps soit... Enfin, jusqu'à qu'il fasse trop froid ou trop pluvieux. Après, on passe les mois d'hiver où les brebis sont encore à une période où elles produisent pas de lait, tout ça, donc on les soigne, mais on a moins besoin de stock, contrairement à des gars qui font tout le lait là, en plein hiver, donc là il faut vraiment bien les nourrir. Tout.
Mmh.
Et nous, quand elles commencent à produire, c'est là presque où on peut les sortir, donc d'où l'idée là, d'optimiser le pâturage justement pour bien faire un maximum de lait, et c'est là le lait qui coûte le moins cher. Quoi.
Mmh.
Il n'y a pas besoin de couper l'herbe, de la sécher, de la stocker. Là, c'est les brebis qui font tout le job, quoi.
Encore une fois, si vous souffrez d'éco-anxiété ou d'éco-dépression, vraiment, parlez-en à votre médecin et allez voir un psy. Et à ce moment-là, j'ai vraiment l'impression de faire mon coming out sur l'effondrement.
Quartier, chacun a son potager, l'arrêt du réchauffement est d'affaire de comportement. Mais mon sol tout sec donne foi au rapport du GIEC qui, en chaque saison, nous promet l'armageddon. Pourquoi faire ses graines à l'heure de l'anthropocène, en fini copopélie, si l'humus est tout rôti. Ma foi étant mienne, je néglige ma grelinette, et face à l'holocauste, que peut mon lombric compost. J'arrive plus à jardiner, j'ai trop d'éco-anxiété, chaque nouveau lit me résigne. Surtout ce Pablo Servigne, et j'arrive plus à jardiner. J'ai trop d'éco-anxiété. Dans le canapé, je mange des chips en attendant l'apocalypse. Depuis que je suis minot, je fais popo dans les copeaux. Et même à un âge mûr, mes chiures tombent dans la sude. Quelque chose me stresse tout au fond de mes toilettes sèches. Je veux pas que mes étrons justifient de scier des troncs. Je mets plus de végétaux sur les crottes au fond du son. Pas un épicéan ne périra pour mon caca. Vouloir que ça sent pas, c'est un truc de petit bourgeois. C'est ce que j'ai rétorqué à tous mes voisins de palier. J'arrive plus à me soulager. J'ai trop d'éco-anxiété. Je veux pas me torcher le sphincter avec la forêt primaire. Et j'arrive plus à me soulager. J'ai trop d'éco-anxiété. J'ai perdu toute vie sociale. Pas la faute de mon trou de balle. Mes voisins pétitionnent pour me chasser de la location. L'occasion est trop bonne d'essayer l'autoconstruction. Bâtir un toit éthique, une maison bioclimatique. Je veux tâter de la taloche, même si je suis ultra gauche. Ça me turlupine en passant ma barbotine. J'ai dû poser une panne sur un gros nœud de Hartmann. Quel est le bilan carbone de mes vis, de mes crémones? Et mes panneaux solaires sont-ils tous vernaculaires? J'arrive plus à bricoler. J'ai trop d'éco-anxiété. Je vois des images du carnage dans la vase de mon lagunage. Et j'arrive plus à bricoler. J'ai trop d'éco-anxiété. Je fous le feu à mes murs de paille. Et je me casse dans la broussaille. Aïe, 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 les ronces m'assaillent. Je m'en prends une douze au white. Je joins les ours blancs. Je suis la nature qui se défend. J'ai troqué ma Rolex contre une collection de silex. Mon costume Pierre Cardin contre une peau de ragondin. La chasse est trop la dèche avec un arc et des flèches. Pas une touche sur ma canne, je me sens devenir vegan. Le survivalisme n'est plus qu'un anachronisme. On va tous y passer, même en hutte dans la forêt. J'arrive plus à espérer. Hey, hey, j'ai trop d'éco-anxiété. Devant le grand incendie, je fais des michouilles de colibri. Et j'arrive plus à espérer. J'ai trop d'éco-anxiété. Si le chaos a déjà gagné, je vais aider le monde à collapser. Je me suis informé sur les techniques, les méthodes. Voir si la lutte armée pouvait revenir à la mode. Je cherche la bonne recette, le gang de la clé à molette. Je veux semer la terreur, 100 fois plus qu'une abombeur. J'ai pas la syntaxe pour faire des lettres à l'anthrax. J'ai pas joué du crochet pour arrêter les TGV. Face à la catastrophe, que peut une Kalachnikov? Les pros du BTP se moquent bien du TATP. J'arrive plus à me raisonner. J'ai trop d'éco-anxiété. Commenceront les attentats. Ils vont regretter le tir. Ah, 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 j'ai trop d'éco-anxiété. J'aurais plus à me raisonner. On va allumer la mèche. Et ils vont regretter la hèche.
À ce moment-là, je sais que là, tout de suite, ma dépression écolo vient de finir.
On va passer aux questions un peu philosophiques.
Allez.
J'ai ça en magasin. Un jeune qui voudrait s'installer, un woofer qui s'intéresse à la ferme, est-ce que tu lui conseilles ce métier? Et si tu le lui conseilles, sur quoi tu le mettras en garde?
Moi, je lui dirais que s'il veut s'installer, il faut qu'il fonce parce que c'est un beau métier, il va être indépendant, il pourra prendre les décisions lui-même, il sera pas. Enfin, ce sera lui son propre patron, quoi. Et puis, c'est un métier qui est très attrayant. Après, c'est sûr que c'est plus difficile quand on n'est pas issu de ça d'un point de vue économique. Je veux dire, du coup, il faut reprendre une ferme.
Ça coûte très cher.
Ben, ça coûte cher. Donc après, bon, il y a quand même des aides aujourd'hui, surtout quand justement t'as pas cette ferme là, donc tu peux être bien aidé. Et puis aujourd'hui il y a plein de moyens d'accéder au foncier, que pas forcément d'acheter, quoi, de louer et tout en restant en ayant une rentabilité correcte. Moi, j'ai plein de cas en tête, des fermes que j'ai visitées ou des gens que je connais qui ont repris des fermes et qui sont partis de zéro, quoi, qui avaient rien, et ils vivent bien de ça aujourd'hui.
D'accord. Ils s'endettent pas à vie?
Non, je pense pas que t'aies besoin de t'endetter à vie, non. Non, après, il faut, bien sûr, il faut qu'il y ait de la rentabilité économique quand même, quoi, parce que...
Ouais, c'est ça. En général, on me dit, il faut pas compter ses heures.
quand on est salarié.
Quand on est agriculteur. Quand on est salarié, je sais pas. Mais...
Ouais, salarié aussi, ouais. Mais l'agriculture, c'est un peu particulier parce que finalement, on est dans l'agricole quand même, donc on dépend aussi de la météo, de tout ça. Donc, il y a un jour où tu avais prévu de faire quelque chose dans les champs ou quoi, finalement, si le temps n'est pas là, on va te dire, rentre chez toi. Mais par contre, le lendemain, sois prêt à faire le double d'heure. <tu vois. rire>
Ouais, c'est sûr. Ouais, il faut être flexible, quoi.
Je pense qu'il faut être flexible, mais quand on a le goût du métier, c'est naturel, en fait. On comprend bien que si un jour il pleut, c'est ce jour-là qu'il faut se reposer, et le jour où il fait beau, c'est ce jour-là qu'il faut faire à 10h ou 12h dans la journée, quoi.
Donc, toi, tu es issu d'une famille d'agriculteurs, t'as toujours grandi dedans. Et donc, autre question philosophique, est-ce que t'as une idée, toi, de ce que pourrait devenir être l'agriculture, ici, dans 10 ans, dans 20 ans?
Ouais, j'avais réfléchi à la question parce que j'étais sûr que t'allais me la poser.
Mais ça intéresse tout le monde.
Mais parce que je me la pose aussi, en fait. Hein. Parce que je pense qu'on est nombreux à, des fois, quand on se retrouve entre agriculteurs, à se la poser aussi. Parce que rien que moi, là, en quelques années, là, en 4-5 ans, là, je vois un agrandissement des fermes qui est impressionnant sur le sud d'Aveyron, l'Aveyron, la France entière. Et ça pose des questions. On commence à se dire à quoi vont ressembler les exploitations agricoles dans 10 ans. Après, moi, je dis tout est relatif parce que donc on commence à avoir ici des fermes 300, 400, voire même des fois 500 hectares, plus de 1000 brebis à la traite. Ici, par exemple, une ferme comme moi, avec 350 brebis, il y a quelques années, il y a 10 ans, 15 ans, on était quand même des structures assez conséquente. Aujourd'hui, on se retrouve à être presque dans les petits, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on se pose des questions. Après, moi, je m'intéresse beaucoup à l'agriculture au niveau européen, via beaucoup YouTube, en vrai, parce qu'il y a beaucoup de YouTubeurs qui s'intéressent à l'agricole, quoi, qui font des reportages sur l'agriculture en Europe de l'Est, par exemple.
D'accord.
Et je vois des méga structures, mais quand je dis des méga structures, on est sur plusieurs dizaines de milliers d'hectares, des fois, sur des exploitations. Et juste à nos voisins, quoi.
D'accord.
Finalement.
Ah ouais.
Roumanie, des grands pays comme ça, là, qui ont une agriculture là, qui a explosé en quelques années, quoi.
Oui, c'est ça, ça rapidement, parce qu'avant, c'était plutôt de la.
Une agriculture vivrière, mais il y a beaucoup de fonds d'investissement, des agriculteurs aussi, qui ont quitté la France pour partir là-bas.
Ah, d'accord.
Ou d'autres qui ont quitté l'Allemagne, par exemple, pour acheter des grosses fermes là-bas. Et du coup, c'est pour ça que je dis c'est relatif, parce que. D'un point de vue d'un auditeur, par exemple, qui écoute Radio Saint-Aff, qui écoute mon interview, va se dire c'est 50 hectares, c'est un agro-industriel capitaliste. et finalement, si tu interviews quelqu'un peut-être en Roumanie qui va écouter les chiffres de mon exploitation, il va dire c'est une petite agriculture vivrière familiale. Donc voilà, je pense que.
Tout est relatif.
Ouais. Je pense que tant qu'on est aujourd'hui là, sur des structures entre 100 et 200 hectares, voire 300 hectares, mais qu'on est entre des associés d'une même famille ou des voisins qui se regroupent, moi pour l'instant ça me fait pas trop peur, quoi. Ce qui pose question par contre, c'est la reprise de ces exploitations. Est-ce qu'on va réussir, quand un associé partira à la retraite, à en trouver un qui va venir le remplacer? Et je pense que ça va être ça un peu la mission dans les années à venir, c'est essayer de faire en sorte que ces exploitations se reprennent au fur et à mesure dès qu'un associé s'en va, quoi. Et que, parce que sinon, le risque, c'est un court désagrandissement, et au final, qui c'est qui pourra acheter ça? Je pense que...
Des fonds d'investissement.
Voilà, pour moi, c'est...
C'est le danger.
C'est des gars comme Intermarché ou Carrefour, des mecs qui, en fait, auraient un intérêt direct à être propriétaire de ces exploitations, quoi.
Ouais.
Et vanterait en plus de ça
le fait que c'est
du local, que c'est eux les agriculteurs, comme il y a eu le scandale d'Intermarché qui se vante d'être producteurs et commerçants, quoi.
Ouais.
Alors qu'ils sont pas du tout producteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'étaient un peu montés contre ce slogan là qui ne veut rien dire, mais bon.
Ouais.
Malheureusement, ici, dans quelques années, ça pourrait être le cas, quoi.
Ouais.
Donc c'est vrai que c'est un peu le danger des agrandissements, quoi.
D'accord, c'est ce que tu vois arriver, toi?
Moi, dans un premier temps, je vois arriver déjà des agrandissements du style une ferme comme la mienne, par exemple, comme il y en a plein, qui s'associe avec la ferme d'à côté qui fait à peu près les mêmes surfaces. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait peur, ça fait des exploitations finalement à 300 hectares.
Ouais.
Mais finalement, c'est juste une exploitation comme la mienne, qui s'est associée avec une autre comme la mienne, et ça fait des chiffres, c'est sûr, de suite un peu imposants, mais je pense que derrière ça aussi, il y a une, la vision sociale qui est différente de, de la génération de mes parents, par exemple, où il y a des gens, ça leur faisait rien de bosser seul sur une ferme ou être à deux et pas partir souvent en vacances, ou voire pas du tout. Aujourd'hui, quand, ben, je pense qu'il y a des gars qui réfléchissent autrement, qui se disent « Ah ben, moi je suis tout seul, mon paternel il prend la retraite, le voisin il a mon âge à côté et il est dans le même cas que moi, pourquoi on ne se mettrait pas à tous les deux ?» Et puis des périodes où il n'y a pas beaucoup de travail, eh ben, un seul pourra faire le job et
on pourra... Le système des GAEC un peu, quoi.
Voilà, ouais, le système des GAEC où finalement il y aura du temps libre davantage.
Oui, il n'y aurait pas un problème de succession une fois que, tu vois, un GAEC, quand les gars partent à la retraite, si les enfants... je ne sais pas comment ça se passe, hein, là je pars dans une question, je n'avais pas réfléchi avant, mais tu es trois personnes associées, et puis il y en a un qui s'en va, et à qui appartiennent les terres, les bâtis?
Ouais, alors moi je pense que cette question-là, elle est un peu secondaire, c'est que, en fait, je pense qu'il faut, comme tu disais dans une autre question, c'est que il faut avoir un point de vue un peu sociétal, dans le, genre... Dans le... niveau de voir ça comme une société, comme voir ça un peu comme une entreprise à un moment donné, et dire bon ben ok, les trois personnes qui travaillent aujourd'hui, il y en a aucun des trois qui est propriétaire des terres, parce qu'elles appartiennent au père d'un tel, aux parents de lui, enfin voilà, elles appartiennent à d'autres personnes, mais ces personnes-là les continuent à les louer, et ça crée, c'est une charge pour l'entreprise, c'est loué à une personne tiers, mais finalement ça n'empêche pas de continuer, et c'est juste une transmission des parts sociales de l'entreprise, c'est tout, puis ça continue, quoi.
D'accord.
Okay. Pas besoin forcément d'être propriétaire de tout, il y a plein de fermes aujourd'hui qui sont propriétaires de très peu de fonciers et qui gagnent leur vie et qui travaillent des terres qui ne sont pas les leurs sur le papier, mais ça, d'accord, c'est pas un problème.
Travaille plus en fermage que...
Voilà, c'est du fermage.
D'accord. Donc moi j'ai à peu près posé toutes les questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Quelque chose dont on n'a pas parlé?
Ouais, ben moi je peux parler d'un truc qui me tient à cœur, c'est justement, comme on vient de l'évoquer, c'est à l'érosion des sols. Enfin, tout ce qui est les méthodes de nos méthodes de culture, quoi. Moi j'ai un peu changé, j'ai même carrément changé mon fusil d'épaule il y a quelques temps, même avant de m'installer, parce que j'ai un peu commencé à entendre parler de l'agriculture de conservation des sols, de l'agroécologie, quand j'étais en train d'étudier, justement, grâce à des intervenants, hein, pas grâce à mes professeurs, malheureusement. Je crois qu'aujourd'hui, quand même, maintenant, c'est un peu rentré dans les programmes, mais nous, à l'époque, non, pas du tout. Mais grâce à des intervenants qu'on faisait venir une fois par semaine, ben, j'ai commencé à entendre parler de ça, notamment au début par la voix de Sarah Singla, qui est agricultrice sur le Levezou, et qui nous a parlé des techniques de semi-direct sous couvert végétal, de l'agroécologie, quoi, en général. Et moi, ça a commencé à me parler, j'ai de plus en plus gratté ce sujet-là, quoi. Et puis finalement, mon père m'a fait confiance, on va dire, et m'a permis de commencer à essayer des choses aussi sur la ferme, quoi. De sortir du système vraiment de travail du sol. Ici, on est sur des sols fragiles, donc on est sur des bonnes terres, quoi. Quand l'année vient bien, qu'on a des bonnes pluies au bon moment, tout ça, on arrive à avoir des bons rendements, mais on n'est pas sur des sols profonds. Et donc ici, dès qu'il y a du labour, donc on soulève des pierres, donc on aligne les pierres, on broie les pierres. Enfin, même il y a des gens qui connaissent pas les sols calcaires, et qui, quand tu leur racontes ça, ils hallucinent. Quoi. Parce que ça ressemble presque plus à du travaux public que de l'agriculture, au final, quoi. Et donc avec des charges de mécanisation très élevées, puis une terre ici qui, une fois qu'elle est bien affinée, a tendance à partir avec le vent. Si au moment que tu sèmes, au moment que tu travailles, il y a du vent, tout par cette poussière qu'on voit des fois à des kilomètres, ben en fait, il faut comprendre que c'est la terre la plus riche qui s'en va, quoi. Et donc tout ça, ça m'a un peu bouleversé, qu'on va dire, un peu remis en question. Et donc j'ai commencé là à partir sur des nouvelles techniques où on essaye de travailler le sol le moins possible, voire pas du tout quand on peut. Et donc maintenant, on commence à avoir pas mal de recul, là. Au moins 8 ans, voire même peut-être 9 ans sur les premiers essais. Là. Enfin, bah, c'est très concluant, quoi. Une évolution très positive. on arrive à produire toujours autant, voire mieux, et à moins dégrader nos sols, voire à les aggrader même. Je n'ai pas peur de le dire. On va vers une aggradation des sols et c'est quelque chose que l'homme n'a pas fait depuis quelques millénaires apparemment. Ouais. On a toujours été de plus en plus loin dans le travail des sols, dans tout ça. Et là, maintenant, on commence à revenir en arrière et à aggrader nos sols, quoi, à les rendre meilleurs que ce qu'on les a trouvés. Quoi. Ouais. Et ça, je trouve ça quand même hyper intéressant pour l'avenir, pour la génération future, pour même pour nous. Quoi, parce que les effets, on les voit rapidement. Et donc, c'est que du positif.
Quoi. Et où c'est que tu trouves la ressource pour connaître les nouvelles techniques et tout?
Voilà, c'est une nouvelle agriculture, comme on dit, qui part du bas. Parce que depuis longtemps, c'est des grandes institutions qui nous ont dit comment il fallait travailler. Des technocrates, l'INRA, des machines comme ça, qui faisaient leurs essais à eux, qui disaient, bon, mais voilà, c'est comme ça qu'il faut faire pour avoir le plus de rendement possible. Tout ça. Et là, c'est une révolution qui est plus partie des agriculteurs, par les agriculteurs, pour les agriculteurs. Quoi. Donc, du coup, pour apprendre, et le mieux, c'est d'échanger. Donc il y a des associations où on se retrouve entre agriculteurs pour discuter de ces techniques-là. Il y a beaucoup d'intervenants d'agronomes aussi qui sont là pour... Il y a de plus en plus d'essais maintenant. Ben justement, bon, c'est parti du bas, mais c'est arrivé jusqu'à des grandes institutions et qui maintenant travaillent dans ce truc-là pour essayer de faire des essais, voir quelles seraient les meilleures plantes adapter à des contextes de plus en plus séchants, d'un climat qui devient de plus en plus dur, tout ça. Donc il y a quand même un truc vachement fort là, qui a démarré il y a quelques années, là, mais qui prend de l'ampleur. Il y a quelques années, tu ouvrais un magazine agricole, c'était que pour parler de la ferraille ou des nouveaux engrais ou des pesticides pour avoir plus de rendement. Et là, plus ça va, plus on trouve des reportages, des témoignages sur l'agriculture de conservation, l'agroécologie.
Et même les grandes institutions commencent à s'y mettre. C'est un signe...
Ouais, mais bien obligé, quoi, parce que bien obligé, parce qu'ils voient que ça marche. Économiquement, ça marche. Ouais. Techniquement, ça marche. Donc les mecs, ils se sont vus un peu dépassés par tout ça, quoi. Donc je pense, donc ils ont bien, il a bien fallu qu'ils s'y mettent, quoi.
Merci Victor de nous avoir reçus. Merci beaucoup.
Ben merci à toi.
Oui, un chaleureux merci à Victor pour la simplicité de son accueil et la pédagogie dont il a fait preuve. Vous pouvez retrouver cette émission et bien d'autres encore sur le site de radiosaintafrique.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même antenne.